enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Merci à Dan pour ce chant magnifique qui représente le cri de la génération Néhémie. Il y a 2000, presque 2500 ans, un homme appelé Néhémie s'est levé pour dire « Seigneur, rebâtis-moi, reconstruis-moi afin que je puisse aller rebâtir et reconstruire d'autres. » Et cette génération Néhémie, cet appel, représente l'essence même de ce qu'un chrétien devrait être en 2005. Représente l'essence même de ce que l'Église devrait être en 2005. Pas un endroit où des gens se réunissent à chaque semaine pour faire un rituel religieux, mais un endroit, non pas l'Église, non pas un bâtiment. Le bâtiment est simplement nécessaire pour nous accueillir, mais l'Église, c'est des personnes, des gens, des pierres vivantes, chaque personne appelée et qui répond à un appel de dire « Je veux prendre ma part ». Dans cette génération Néhémie, je veux être reconstruit par Dieu, mais afin de me donner à d'autres, afin de reconstruire d'autres avec des talents uniques, avec tout ce que Dieu a mis en moi. Chaque chrétien convaincu avec une assurance que Dieu vous a, que Dieu avait des plans absolument uniques et parfaits. Dieu avait des choses absolument uniques à accomplir sur terre que seulement vous pouvez accomplir. Il y a une œuvre tellement extraordinaire, tellement unique, tellement magnifique qui doit se faire sur la terre que seulement vous, Dieu a tout mis en vous exactement ce que ça prenait. C'est seulement vous qui pouvez le faire. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui, je veux pas te décourager, mais ce que je fais, t'es pas capable de le faire. Dites ça à la personne près de vous. Chaque personne. Et aujourd'hui, cette génération Néhémie, elle est vivante et elle est belle. À chaque fois que je regarde à l'église le dimanche et je sais tout ce qui se prend en place pendant la semaine, lorsque je regarde, la génération Néhémie est vivante aujourd'hui. Lorsque je regarde à ces équipes d'hommes et de femmes qui vont visiter l'hôpital Sainte-Justine et qui vont amener un sourire sur le visage des enfants, ce chef Hervé, ce chef qui est chef dans un grand hôtel, mais qui donne du temps du bénévolat pour aller préparer des repas magnifiques pour les parents des enfants de Sainte-Justine régulièrement, gratuitement. Il y a un homme de l'église qui est ici ce matin. Il est une marque, un rappel que la génération Néhémie est bien vivante. Lorsque je pense à toutes ces dames qui visitent des personnes âgées, des maisons de personnes âgées à chaque semaine et qui maintenant, il y a une alliance où les dames de l'Église travaillent avec les enfants et les enfants commencent à préparer des choses qui vont porter, nos enfants qui vont porter des choses dans les maisons, des choses qu'ils ont fabriquées pour aller passer du temps avec les personnes âgées, dans les maisons de personnes âgées. Lorsque je regarde à tout l'océan de rencontres, de counseling, d'aide qui se fait dans la jeunesse auprès des jeunes, je sais que la génération Néhémie est vivante encore aujourd'hui. Lorsque je regarde à des gens qui ont un emploi séculier, mais qui ont toutes sortes de connaissances et qui veulent les mettre au profit pour aider d'autres personnes, des travailleuses sociales, avocates, comptables qui donnent du temps, des heures ici la semaine pour aider des gens, comptables qui aident ici bénévolement, avocates qui aident à aider des gens qui sont pris dans toutes sortes de difficultés, des femmes seules. Lorsque je pense aux hommes de l'Église, tous les dimanches matins, qui partent avec un autobus et vont chercher des enfants dans les quartiers défavorisés pour les amener ici à l'église à chaque dimanche. Lorsque je pense à la famille Drisdale, qui vendredi soir a accueilli 150 ados dans leur cour pour le party des ados, on me dit qu'il y a eu au-delà de 500 hot dogs qui ont disparu dans un temps absolument record, des gallons de relish et de moutarde et une piscine qui ne sera plus jamais la même. Alors, je veux que vous applaudissiez tous ceux qui sont dans la génération Néhémie. Il y a 7 clés pour ceux qui veulent marcher dans la génération Néhémie. Nous avons vu ensemble, depuis le début de cette série, la clé de l'espoir, l'assurance, la foi à chaque jour, la conviction que Dieu veut me rebâtir afin que je puisse rebâtir d'autres. La clé de l'enthousiasme parce que nous ne sommes pas, parce que nous sommes une équipe, nous ne sommes pas seuls. Les mots clés de Néhémie au chapitre 3, il y a des gens qui sont à côté de nous, il y a des gens qui sont derrière nous. Nous sommes appelés à être à côté de d'autres. Quoi que ce soit que tu traverses, dans l'Église, il y a une possibilité que tu ne sois pas seul. La clé de l'esprit. Toute la puissance de Dieu disponible pour te permettre de faire ce que tu pourrais jamais faire par tes propres forces. Et la semaine dernière, dans les dernières semaines et cette semaine, ce que nous appelons la clé de l'engagement. qu'il y a une clé si nous voulons voir toutes les promesses de Néhémie s'accomplir en nous. Que Dieu a dit, Néhémie a prié et il a dit, « Dieu, tu es grand, tu es redoutable, et toi, Seigneur, tu gardes ton alliance et tu donnes miséricorde à ceux qui gardent tes commandements. » Qu'il y a une clé, une particularité à cette génération Néhémie, c'est que c'est des gens qui s'engagent, des gens qui ne lâcheront pas, des gens qui ont un engagement différent. Nous sommes dans une société d'engagement brisé. Il y a des multitudes de jeunes et d'ados qui subissent le brisement d'engagement, d'adultes qui les trahissent, d'adultes qui leur font du mal, d'adultes les plus près d'eux qui les abusent. Il y a des engagements qui sont brisés dans la famille, dans des mariages, des engagements brisés de la part des patrons envers les employés, il y a un cynisme peut-être sans précédent face à tout le monde politique actuellement dans la province de Québec. Je ne fais pas de politique, mais il y a un cynisme qui est marquant parce qu'il y a un sentiment dans le cœur de monsieur tout le monde qu'il n'y a jamais personne qui tient ses engagement. Et dans cette société où tout le monde brille, où l'égocentrisme est maître, où chacun vit pour soi et personne ne s'engage envers qui que ce soit, il y a une génération qui se lève de croyants, même dans l'Église, dans une Église trop souvent où l'égocentrisme, où le croyant a tourné sur lui-même, qui veut servir de tout ce que l'Église a à lui donner et qui est léger et volatile et qui ne s'engage jamais. Au milieu de tout ça, il y a un peuple qui s'appelle la génération des Néhémie, des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, aide-moi à saisir la clé, que tu remplis de miséricorde, tu donnes le miraculeux à des hommes et des femmes qui gardent leur alliance. » Risque un amen ce matin. Dans l'Ancien et Nouveau Testament, cette parole est là. L'apôtre Néhémie était animé d'un farouche esprit d'engagement. Souviens-toi de cette parole, Néhémie 1, 8 et 9. Il parle au Seigneur et dit, « Souviens-toi de la parole que tu avais donnée à Moïse, ton serviteur, que lorsque tu avais demandé à Moïse d'annoncer ça au peuple, que lorsque vous pécherez, vous serez dispersés, mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements, si vous vous engagez, Dieu dit, si tu t'engages envers mes commandements, si tu les mets en pratique, alors quand vous serez, même si tu te retrouvais dans les pires situations, même si tu étais exilé aux extrémités du ciel, même si tout tourbillonnerait autour de toi, alors je te rassemblerai, dit le Seigneur, je te ramènerai au lieu où j'ai choisi de faire résider mon nom, que toute une puissance est disponible, que la puissance de Dieu va résider sur toi si simplement tu t'engages. Il vous a maintenant réconcilié, dit Paul dans Colossiens, par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui se vit une heure et demie le dimanche matin à l'église. C'est quelque chose qui se vit à chaque jour. L'engagement chrétien, c'est à chaque jour. Une des particularités du mouvement chrétien évangélique, et je crois que c'est une particularité merveilleuse, c'est que les pasteurs et les leaders sont des hommes de famille. Une des particularités du mouvement chrétien évangélique, c'est que les pasteurs ont le droit de se marier. Et je trouve que c'est une particularité magnifique. Et que les hommes qui sont là disent, gros, oui, c'est ceux qui sont d'accord. Alors, moi, je trouve que c'est un élément magnifique. Et ce qui fait de nous des gens qui, à chaque jour, vivent la vraie vie. Qui se fait de nous des hommes qui ont des femmes, des épouses, des enfants, des comptes, des hypothèques, qui vivent dans le vrai monde, qui vivent des principes, qui aspirons à de grandes réalisations, mais qui vivons la réalité du quotidien, la réalité d'avoir des petits bébés, la réalité de les voir devenir des enfants, la réalité de leur voir percer leurs premières dents puis de pas dormir la nuit, la réalité de les voir devenir des pré-ados, la réalité de les voir devenir des ados, la réalité de tous les combats qui prennent place dans la vie normale. Et une des forces, je crois, de l'Église chrétienne évangélique, c'est cette dimension où chacun d'entre nous, il n'y a pas personne ici qui vous appelle, vous, à l'engagement, à la conviction, à la persévérance, sans en être nous-mêmes testés à chaque jour de nos vies. En d'autres mots, nous devons vivre notre message à chaque jour. Il y a des hommes partout dans cette église dimanche matin dernier, c'était la fête des pères. Et il y avait une vidéo que je voulais montrer dimanche dernier, on n'a pas eu le temps de le faire. Et j'ai appelé le bureau international de la fête des pères et j'ai eu une extension d'une semaine. Alors, c'est officiellement encore la fête des pères ce matin. Comment est-ce que le papa ici, levez votre main les papas. Ceux qui sont assis à côté d'eux, dites-leur bonne fête des pères, juste pour ce matin. Beaucoup d'hommes dans cette église que j'admire énormément sont des hommes d'engagement. Des hommes qui ont compris qu'une des clés pour bâtir et être rebâti, bâtir, c'est simplement la persévérance, c'est de s'engager à travers toutes les épreuves que nous vivons. Et un de ces hommes-là que j'admire énormément, c'est le pasteur Denis Morissette, qui est avec nous depuis les débuts dans l'équipe pastorale. Parce que je l'aime, mais je l'admire. C'est un modèle pour moi dans beaucoup de domaines parce que c'est un homme. Premièrement, parce qu'il est tellement mon aîné, alors je lui dois respect et révérence. Mais surtout, parce que c'est un homme d'engagement. Et lui et son épouse Joanne, engagés, des gens qui s'accrochent, le pasteur Denis, qui s'engagent. Ce n'est pas seulement les principes que nous communiquons ici, ce n'est pas seulement des choses qu'on dit dimanche, des conférences qu'on donne, c'est notre vie à chaque jour. Alors, à l'occasion de la fête des pères dimanche dernier, il y a une petite vidéo qui a été faite où deux de ses fils parlent, les quatre fils parlent sur la vidéo. Et j'aimerais qu'on le regarde ce matin, que vous puissiez vous arrêter un instant et simplement dire, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui s'engage. Fais de moi, remplis-moi d'une conviction. Pas seulement les pères, les mères, les jeunes. Donne-moi un cœur qui ne lâche pas. Donne-moi un cœur qui s'accroche à tes promesses. Donne-moi un cœur qui, lorsqu'il donne sa parole, il la tient. Donne-moi un cœur qui ne fuit pas lorsque le trouble vient, qui ne abandonne pas lorsque les difficultés viennent. Donne-moi un cœur qui ne lâche pas. Vous dire amen. Et je sais que le pasteur Morissette est une bénédiction pour vous comme il est pour moi. Mais ce matin, est-ce qu'on peut, simplement alors que la vidéo commence, est-ce qu'on peut lui exprimer notre affection, notre appréciation pour un homme qu'on aime beaucoup? Let's do it!
Vous savez, lorsqu'on est conférencier et que l'on enseigne sur la famille, on est habitué aux questions et aux questions théoriques, aux concepts. On est habitué de partager les quatre principes ou les trois clés pour réussir sa famille et pour amener sa famille à un état d'épanouissement. La réalité est tout autre dans la vie de tous les jours. Et j'aurais aimé, moi, au fil des dernières années, avoir cette divine immunité, cette exemption des contraintes, des douleurs qu'occasionne la vie de famille. Il y a quelques années de cela, mon second fils, Nicolas, a abandonné la foi pendant une période de temps, a eu des conduites dans sa vie qui ont été très, très douloureuses et pénibles pour lui-même en premier, mais aussi pour nous comme parents. Et au fil de toutes ces années-là, qui paraissent parfois interminables, a surgi en moi une nouvelle compréhension de la réalité de qui Dieu est et de ce qu'il veut faire dans nos propres vies.
Je m'appelle Nicolas Morissette. Je suis né d'une famille chrétienne. Bien, j'ai toujours été bien traité, j'ai jamais manqué de rien, sauf qu'en dedans de moi, il y a toujours eu un vide que je réussissais pas à combler. Et à peu près à l'âge de 15 ans, j'étais toujours un petit gars qui avait pas d'estime. Je priais là-dessus, moi, pensant que ça viendrait tout seul, comme par magie. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, à ce moment-là, je me suis rebellé contre Dieu. J'ai dit, moi, je veux plus rien savoir, je vais m'arranger par moi-même. Jusqu'à temps que je commence de même. J'ai quelqu'un qui m'a offert un joint, j'ai commencé à en fumer. Mon secondaire 4 puis 5, ça a été un vrai désastre. J'étais tout le temps gelé. Avec tout ça, quand mon secondaire a fini, j'ai commencé à prendre des drogues encore plus dures, soit le speed et l'ecstasy. J'étais un gars de party, j'étais un gars populaire. Moi, tout allait bien, j'en prenais. À ce moment-là, j'avais une copine. Là, il est venu un temps où est-ce que ma copine me laissait. C'est là que c'est rendu que j'en prenais gros pour voir jusqu'à quel point j'étais capable d'en prendre pour mourir.
Vous savez, dans ces moments difficiles de la vie, une foi théorique, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit quelque chose de mis en pratique. C'est comme l'énergie, je dirais, jusqu'à un certain point. J'étais pour dire du désespoir, mais plus de l'espoir de voir les choses changer. Dans ces moments sombres, où on se pose des questions, où on se remet en question, où on remet en question parfois le Seigneur même dans qui il est, dans sa fidélité. C'est dans ces moments sombres qu'on découvre la réalité de Dieu. J'ai découvert un Dieu qui a un cœur, qui se soucie encore davantage de mes enfants que moi-même je peux m'en soucier. C'est un Dieu qui a un cœur encore plus grand que le mien. Ayant saisi cette vérité profonde, qui est aussi à la fois dans mon cœur une promesse, j'ai encore combattu davantage avec acharnement, dans ma prière, avec mon épouse qui prie de son côté aussi pour s'assurer que Dieu reste toujours sur la situation, omniprésent, capable de changer les choses.
Tout au long de ce trip-là, il y a des fois que j'en prenais tellement que je filais pas. Puis il y a quelqu'un aussi, à part mon meilleur ami JP qui est encore là, il y a quelqu'un aussi qui a toujours été là pour moi, puis ça a été mon père. Moi, je me souviens de mon père qui m'a ramassé un dimanche après-midi après que j'avais passé 4 jours sur le party. J'étais knock-out. me monter à l'hôpital. Puis tout ce temps-là, moi, je réalisais pas, mais j'étais même plus là, de rien. Là. Moi, c'est un blackout, je me suis réveillé à l'urgence. Mais mon père, c'est ça, mon père a toujours été là. Souvent, je l'ai tassé, mais jamais il est vraiment parti. Il est toujours resté là pour moi. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'oublierai jamais. Mais c'est ça, mon père, pour moi, c'est un grand homme. Maintenant, je pense qu'il comprend pas tout ce qui arrive, mais je sais qu'il est fier de moi, puis c'est ça.
Je suis particulièrement fier de mes fils. Je suis non seulement fier de Nicolas qui soit revenu pleinement au Seigneur, pleinement dans la vie de famille aussi. Je suis fier de mon fils aîné qui a resté droit au travers de toutes ces années-là, qui a resté ferme dans sa foi, qui a vécu la vie de tous les garçons de son âge, mais avec pas ce détournement-là.
Mon père est une inspiration pour moi dans le sens où moi, mes choses que je vivais, je suis plus intériorisé que Nicolas, mais ça veut pas dire que ça en passe pas. J'ai pas fait de crise vraiment. J'ai eu mes grosses... j'ai encore. Puis je crois que c'est quelque chose de bon, des remises en question. Puis à ce niveau-là, il m'aide vraiment. Ce que je prends de lui aussi, c'est une persévérance, même si tout se passe pas très facilement dans la vie.
Bien sûr, je suis fier de mes deux fils les plus jeunes, William et Thomas, qui, de voir leur frère aussi dans des moments comme ça souffrir, de voir leur cœur peu de petits garçons qui veulent tellement que leur grand frère aille bien, que leur grand frère puisse reprendre en main la vie parce qu'il y a un impact dans toute la famille, dans tout ça.
Jusqu'à date, ça fait 4 mois que j'ai rien consommé. Puis que non, tout va pas bien, mais que je suis... Au plus profond de mon cœur, je suis bien plus heureux que je ne l'ai jamais été. Puis, c'est ça, je vais prendre ce moment-là pour dire à mon père merci. Merci d'avoir toujours été là. Mais merci aussi de m'avoir donné la vie, puis de maintenant être capable de me dire qu'est-ce que j'ai à faire par rapport avec Dieu, puis toute l'équipe. Puis que je me dis que si les deux vous êtes avec moi, il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter. Claude, je prends le temps sur cette petite cassette pour te dire que. Toutes les fois que j'étais tout pété de la veille, puis que j'allais à l'église, puis je voyais tes prêches, c'était les seuls qui venaient me chercher, qui venaient me faire pleurer tout seul dans mon banc. Je pense que d'un certain sens, tu m'as permis de rester accroché à l'église, puis ça, je trouve ça super. Puis aussi, je veux pas oublier les femmes de l'église qui ont prié pour moi. Ça, je sais que j'en ai entendu parler par ma mère, il y en a beaucoup qui priaient. Oui, vous avez eu mon témoignage... sur papier, mais ça, c'est live, puis c'est sans censure, si je peux dire ça comme ça. Fait que je vous remercie, puis ça a donné quelque chose. Ben, je sais que mon père, c'est le premier à genoux à prier pour son fils quand il était parti 3 nuits en ligne, avec 3 jours. Je sais que c'était lui qui priait, qui était là pour... qui se tenait, je peux dire ça, à la brèche pour son fils qui allait bientôt tomber dans le gouffre. Ben, ça a marché. Ça, c'est sûr, à tous les pères... quand on prie, il ne faut pas lâcher. Puis, veut pas, tôt ou tard, ça va faire un impact, puis ça va servir à de quoi. La preuve, je pense pas qu'au début, quand mon père commençait à prier, quand il a vu que ça prenait 5 ans avant que je revienne, il a peut-être eu envie de baisser les bras, mais si je suis ici, c'est parce qu'il n'a pas lâché.
Être un père, pour moi, dans la vie de tous les jours, c'est apprendre à gérer 4 garçons qui sont en relation les uns avec les autres et en compétition souvent les uns avec les autres. Être un père dans la vie de tous les jours, c'est gérer les projets, les multiples activités de la vie moderne, football, sorties et toutes ces choses-là, vie d'église et relations avec les amis. Le défi, c'est le devoir. Le défi, c'est de penser à leur avenir, de parler avec eux de leur avenir. Le défi, c'est leur vie spirituelle, c'est leur question par rapport à Dieu, par rapport au monde, par rapport à la société, par rapport à la vie. Le défi d'un père, c'est un défi qui s'inscrit dans la vie quotidienne. C'est pas quelque chose de tant philosophique que de profondément pratique dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. Le mot d'encouragement, je peux vous dire, le meilleur investissement que vous pouvez faire, qui est un investissement à long terme, c'est de pouvoir prendre le temps, pas simplement en termes de qualité, comme on le dit souvent, mais aussi en termes de quantité avec vos enfants, sachant que ces semences que vous semez littéralement dans leur cœur, dans leur vie, sont quelque chose qui va vous rapporter au centuple dans l'avenir.
Moi, la fête des pères, c'est vraiment un moment où est-ce que je peux vraiment dire merci à mon père, surtout d'avoir été là pour nous, chacun de nous. d'avoir toujours été là pour répondre à nos questions. Puis Dieu sait qu'ils n'ont pas toujours été faciles et qu'être père, ça prend sûrement plus qu'une maîtrise en psychoéducation et tout et tout. Mais personnellement, papa, je profite de l'occasion pour te dire merci. Merci d'avoir été là pour moi. Même si ça n'a sûrement pas toujours été facile, je remercie aussi pour l'exemple que tu es pour nous. En tout point, en fait, je devrais dire, parce qu'étant donné qu'on s'identifie à toi dans la famille, je te remercie beaucoup d'être un bon exemple pour nous, qu'on puisse le suivre puis sûrement prendre une bonne influence de ça. Là.
On vient prendre juste 2 secondes pour vous dire bonne fête des pères!
À tous les papas qui sont présents ici, nos meilleurs vœux pour la fête des pères.
Est-ce qu'on peut applaudir ensemble? La puissance de l'engagement. La clé de l'engagement, on a vu dans les derniers messages différentes sphères et facettes de cet engagement. Engagement malgré nos frayeurs, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes forts. On a vu un engagement envers notre famille et notre foyer. Et j'aimerais conclure cette portion-là de la clé sur l'engagement ce matin avec, en suivant le texte dans le livre de Néhémie, avec un engagement de fidélité envers l'œuvre de la foi. Je souriais lorsque je réalisais que le livre de Néhémie est écrit et couvre les événements de la reconstruction des murs. Il y avait Néhémie qui était appelé à aller reconstruire les murs physiques de Jérusalem qui avaient été détruits. Ça a une symbolique et une signification spirituelle aussi. Mais le texte nous dit dans Néhémie 6 que la muraille fut achevée le 25 du mois de septembre en 52 jours. Alors, tous les commentateurs s'entendent qu'il y a plusieurs des leçons de Néhémie qui ont pris place pendant une période d'été. Un message d'été. Pendant la période estivale, il est arrivé un moment où Néhémie s'est adressé au peuple avec différentes leçons et les appels à l'engagement, cette clé d'engagement. Et je vais vous donner comme devoir cette semaine de regarder à la maison et vous allez de lire le texte au complet du chapitre complet, du chapitre 5 à la maison. Et vous allez voir différentes sphères dans lesquelles ils étaient appelés à s'engager. Et si vous comprenez la chronologie de ce qui a pris place, c'est qu'il y avait eu un rejet. Et un relâchement. Le peuple, Néhémie, a confessé, nous avions été rebelles, nous avions abandonné les commandements. Et alors qu'ils avaient abandonné les commandements de Dieu dans les décennies précédentes, ça les avait amenés loin de la protection, loin de la bénédiction, loin de la couverture de Dieu. Ça les avait amenés en captivité. Le peuple, il y a eu un résultat, il y avait un rejet et un relâchement qui a amené un résultat terrible. Le peuple est dans la douleur. Les portes sont brûlées par le feu. Ils avaient été, l'histoire nous raconte, qu'alors qu'ils ont abandonné tous les principes de Dieu. Ils se sont relâchés, ils ont laissé aller leur engagement devant Dieu, un engagement de pureté, un engagement moraux, engagement de générosité, engagement à donner aux pauvres, engagement qu'ils avaient pris devant Dieu, alors engagement de pardon. Alors qu'ils ont relâché tous leurs engagements, ils se sont éloignés peu à peu de Dieu, de sa protection, sortis de sous sa main, l'ennemi les amène en captivité, détruit leur pays, leur vole leur héritage pendant des décennies, et après il y a un retour, et c'est ça le livre de Néhémie, c'est qu'il y a un retour qui se fait, où Néhémie dit « Levons-nous et bâtissons, car la bonne main de Dieu est avec nous ». Et alors qu'on les retrouve dans les chapitres de Néhémie, ils sont en train de recommencer à bâtir, de revenir aux principes. Et là, ce qui est hallucinant, c'est lorsqu'on arrive au chapitre 5 et d'autres chapitres du livre, tu t'aperçois qu'alors qu'ils ont pourtant tellement souffert avant et qu'ils sont revenus, pris de nouvelles résolutions, que alors que la pression vient à l'été, à un certain mois d'été, il y a 2444 ans, ils se sont mis à se relâcher à nouveau. Et c'est là qu'on se retrouve dans Néhémie chapitre 5. Il y a un relâchement qui menace de tout détruire à nouveau et de les replonger dans un cycle de médiocrité et de murailles inachevées. Et dans toutes sortes de sphères, c'est ainsi. Mais dans le chapitre 5, vous le lirez à la maison, il y a une sphère que je veux souligner ce matin. C'est l'engagement envers l'œuvre de la foi, de toutes les sortes. Dans la maison de Dieu, ici à l'Église, on a beaucoup, beaucoup parlé pendant cette série dans les choses de nos vies personnelles. Mais il y avait aussi dans l'appel de Néhémie, un engagement à un appel à ce que chaque personne s'engage, soit fidèle à ce qu'il a dit devant Dieu, à ce qu'il s'est engagé à faire dans sa maison, dans toutes sortes de sphères. Je veux l'appliquer de la manière la plus pratique possible et vous dire qu'une des marques de la génération Néhémie, c'est que dans tout ce qu'ils font dans leur vie, ils cherchent à tenir l'engagement qu'ils ont pris. que la génération Néhémie, c'est des gens de parole, des gens d'engagement dans toutes les sphères de leur vie. Et dans le chapitre 5, Néhémie adresse le côté financier des choses. Ils avaient pris des engagements vers les pauvres, ils avaient pris des engagements vers les nécessiteux, des engagements de dîmes, des engagements d'offrandes. Et alors qu'ils se retrouvent là, à l'été, alors que l'été arrive sur eux, c'est extrêmement présent pour nous aujourd'hui, ils se mettent à se relâcher dans leurs engagements, ils sont en danger de retomber dans le cycle précédent, et Néhémie les adresse à ce sujet de manière directe. Vous lirez à la maison, mais on prend le récit au chapitre 5, où Néhémie leur dit, « Puis je leur dis, ce que vous faites n'est pas bien. » Verset 9. « Ne devez-vous pas marcher dans la crainte de Dieu afin de ne pas être déshonoré. » Et c'est ce que je dis à chaque personne de l'Église Nouvelle Vie ce matin. Ne vous relâchez pas dans vos engagements chrétiens lorsque l'été arrive. Ne soyez pas de ceux qu'alors que l'été arrive et les vacances arrivent, se relâchent dans leurs dons, se relâchent dans leurs standards moraux, se relâchent dans leur engagement à Dieu, prennent un break pendant l'été. Alors, à l'été 2444 avant Jésus-Christ, Néhémie a dit, ne faites pas ça. Tout le monde veut les miracles de Néhémie. Je remarque en ce moment, dans le dernier 2 minutes, que le niveau de Amen a baissé considérablement. La première, c'est partie de la série où ce qu'on parle des miracles de Néhémie, du miraculeux, de la puissance de Dieu pour me rebâtir, l'abondance, la provision de Dieu. On embarque, tout le monde veut signer dans la génération Néhémie. Mais il y a une caractéristique à la génération Néhémie, c'est que Néhémie les appelle à un engagement dans toutes ces sphères-là de leur vie, incluant leur engagement de générosité envers ceux qui souffrent, leur engagement, et c'est très, très direct. Et Néhémie était pas un prédicateur, vous vous souvenez, c'est un laïc qui était appelé à cette place-là de ministère, en quelque sorte, à cette place-là d'adresser le peuple. Il n'avait pas de formation de sacrificateur, il n'avait pas pris de cours de prédication, c'était pas un pasteur. Il se permet donc de parler d'une manière extraordinairement directe que moi, j'oserais jamais. Parce que moi, je suis pasteur, puis je vis avec vous chaque semaine, puis je veux que vous reveniez la semaine prochaine. Dites « Amen ». Alors, Néhémie était incroyablement direct dans le chapitre 5. Il dit, ce que vous faites n'est pas bien. Il faut pas vous relâcher. Ce relâchement-là, en fait, vous avez été amené dans des cycles terribles auparavant. Et il le dit de manière tellement directe. Alors, je veux juste vous citer Néhémie. Et vous allez dire amen enthousiastement. Et Néhémie dit, 5:13, je secouais mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de la maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Et tout l'assemblée dit...
Amen.
Sure. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Le peuple s'engagea. C'est quelque chose qui était, vous lirez le chapitre, directement relié à leurs engagements dans toutes les sphères de leur vie, envers leur famille, comme on vient de voir sur la vidéo, mais aussi à cet engagement financier. Qu'à l'été 2005, vous soyez de ceux qui disent, même si je pars en vacances, même si je m'en vais, j'ai pris des engagements pour ceux qui souffrent, pour les pauvres, pour les jeunes, pour le ministère, pour les démunis de la ville, j'ai pris des engagements et je vais pas, les besoins n'arrêtent pas pendant l'été, comme vous avez vu ce matin avec les missionnaires, les fils de missionnaires qui étaient ici. Ce n'est pas des vacances en ce moment en Haïti. Le soutien en Haïti ne peut pas s'arrêter pendant l'été. Et des centaines et des centaines de personnes qui, à chaque été, peut-être pendant depuis des années, arrête de donner pendant l'été, doivent être saisis de cet esprit ce matin qui dit « J'ai un engagement devant le Seigneur ». Le peuple a tenu parole. Le peuple est entré dans une dimension de maturité et d'engagement. C'était très clair, très spécifique. Nous nous sommes engagés envers tes commandements, chapitre 10, verset 33, qui nous appelait à donner pour le service de la maison de Dieu, pour tout ce qui se fait, toutes les œuvres qui s'accomplissent dans la maison de Dieu. Je garde mon engagement parce que j'oublie pas à quoi je donne. Et lorsque vous donnez à aider des enfants, vous donnez à aider la jeunesse de notre Église, vous donnez à aider pour tous les ministères de l'Église, à donner dans le champ missionnaire, à donner pour soutenir Action Nouvelle Vie et les plus pauvres de la ville. C'était très spécifique, c'était très clair, c'était quelque chose qui était, à travers tout le livre de Néhémie, on en parle sans embâche, sans retenue. Dans Néhémie chapitre 10, ils diront même, nous avons pris des engagements d'apporter à chaque année nos dîmes à la maison de Dieu. C'est la dîme de tout, ainsi que les offrandes, les premiers fruits de tous nos terres, de tous nos arbres, notre bétail, de tout ce que je fais, j'amène les prémices au Seigneur. Ainsi, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, ceux qui font le service apportèrent dans les chambres de la trésorerie, les dîmes du vin nouveau, de l'huile, du blé, de toutes nos récoltes. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. » Et mon simple appel ce matin, dans ce flot de la génération Néhémie, c'est de vous appeler à cet engagement, dans toutes les sphères de vos vies, d'être des hommes et des femmes d'engagement. Mais dans cette sphère-là aussi, que l'Église ne soit pas arrêtée, qu'elle ne soit pas paralysée pendant l'été, que les missionnaires ne soient pas arrêtés, que toutes les œuvres que nous faisons pendant l'été ne soient pas, les églises que nous soutenons ne soient pas paralysées parce que tout à coup, il y a des centaines de personnes qui, entre juin et septembre, oublient les engagements qu'ils ont pris. C'est un engagement qui était très personnel devant Dieu. C'est touchant lorsqu'on lit le texte dans Néhémie chapitre 7, et différents versets 66, 69, 70. Comment c'est personnel? L'assemblée tout entière était de 42 360. On n'est pas 358, pas 362. Dieu dit, je connais chaque personne. Il connaît les 3000 personnes et plus exactement qui fréquentent l'Église de Lévis. Qui vous êtes ce matin? Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Et là, il y a des montants qui sont donnés. C'est tellement spécifique, écrit dans le livre pour que toute l'éternité le voie. Les gouverneurs, les noms. La diapo suivante, pour tout cela, nous contractons une alliance par écrit. Nous mettons par écrit nos chefs, nos lévites, nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux. Néhémie, là il y a tous les noms, Zédécias, Zéraïa, Azaria, il y a tous les noms. Tout le peuple, les sacrificateurs, les lévites, les chantres, tous ceux qui s'étaient engagés pour suivre la loi de Dieu. Leurs familles ensemble se joignirent à leurs frères les plus considérables. Ils promirent avec serment. Ça, c'est des mots pas connus, pas populaires, pas politiquement corrects, pas dans la culture actuelle. Alliance, engagement, sérieux, serment, pacte, contrat. Ma marche avec Dieu est sérieuse. Je veux vous dire ce matin que nous sommes ici, nous pouvons vivre parce que Dieu a pris un engagement envers nous. Combien sont reconnaissants que Dieu ne varie jamais dans son engagement envers nous? Alors, la génération Néhémie est un peuple qui répond à cet engagement en disant oui, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons dans le texte du chapitre 5, c'est particulièrement dans la période estivale concernant tout ce qui est l'engagement financier, les engagements financiers que vous avez pris, d'observer, de mettre en pratique selon les commandements du Seigneur. Je vais terminer, arriver à la fin du message, avec un témoignage que j'ai reçu récemment. Il y a des centaines et centaines de personnes ici, comme le pasteur Denis Morissette a témoigné sur vidéo avec sa famille dans cette sphère-là de sa vie, mais des centaines et centaines de personnes ici qui pourraient vous témoigner de la bénédiction qui est venu sur leur vie, alors qu'ils se sont engagés dans différentes sphères de leur vie, mais aussi dans les sphères très pratiques, des sphères de générosité, des sphères de donner. L'Église chrétienne n'est pas une Église chrétienne. Si elle a un discours que c'est-tu terrible qu'est-ce qui se passe avec les pauvres dans le monde, c'est-tu terrible qu'est-ce qui se passe en Haïti, c'est-tu terrible de voir les enfants battus à Longueuil, c'est-tu terrible de voir les femmes seules puis de voir les jeunes qui sont dans la rue, ça a-tu pas de bon sens, comment est-ce que le monde est venu méchant, chante trois petits chants, fait sa liturgie et s'en va chez eux. L'Église chrétienne représente Jésus-Christ qui est venu sur terre et qui l'a donné tout ce qu'il avait. Alors il y a quelque chose dans le cœur chrétien qui dit, dans la génération Néhémie, nous nous sommes engagés à donner de nos temps, de notre talent, de notre vie, de nos prières, et à donner aussi du fruit de nos mains, de notre bien, afin de soutenir cette œuvre-là, afin de voir des choses prendre place. Et Dieu dit si, et des vies être rebâties une à la fois. Et Dieu dit si tu tiens cet engagement-là, et vous avez déjà entendu des messages que j'ai apportés à cet égard, si tu tiens à travers tous les mois de l'année, toutes les épreuves de ta vie, cet engagement-là, il y a une bénédiction, pas seulement matérielle, mais une bénédiction spirituelle qui va venir sur toi et sur ta maison. Je dis à chacun d'entre vous, n'avortez pas tout le flot de vie de la bénédiction de Dieu. N'empêchez pas, n'arrêtez pas, ne sabotez pas la bénédiction de Dieu sur vous en cessant, en relâchant vos engagements pour replonger dans un cycle où les murs restent inachevés. Puis il y a un homme qui m'a écrit un témoignage, c'était tellement touchant, il y a plusieurs personnes qui font ça. Il y a un monsieur qui a envoyé sa lettre de témoignage, une enveloppe avec sa lettre de témoignage, et il part en vacances pendant le mois de juillet, et les dons qu'il avait prévu de faire pour aider les différents ministères de l'Église étaient post-datés. Il sait qu'il ne sera pas là pendant un mois, il veut continuer à soutenir, une espèce de, juste en la simplicité, un cœur engagé. Il était très, très direct. J'ai contacté, puis il m'a dit, dis mon nom, mets ma photo à l'écran, etc. Je ne veux pas le faire de cette façon-là ce matin, mais je veux, bien sûr, avec sa permission, vous lire son témoignage alors que j'arrive à la fin du message. Il dit, Pasteur Hood, ça fait 2 ans que j'aurais dû vous écrire, mais Dieu m'a tellement comblé que je dois donner témoignage. Nous sommes chrétiens depuis 15 ans, et Dieu a sauvé notre mariage et fait de grandes choses pour nous. Je vous écris au sujet des dîmes et des offrandes. En 15 ans, j'avais plusieurs fois décidé de le faire, d'être généreux, mais je savais que c'était vrai, mais ça durait 2 mois et j'arrêtais. J'avais une liste de raisons longues comme le bras. On n'a pas les moyens, on le fera plus tard, on a des obligations. Vous pouvez mettre ma photo en avant, car même si j'ai honte maintenant de mon manque de foi devant Dieu si fidèle, je sais qu'il y a des centaines comme moi. Notre vie chrétienne était correcte sans plus. On changeait d'église. Il y avait toujours quelque chose qui nous dérangeait et qui nous fâchait. On trouvait toujours des chrétiens qui critiquaient l'église et on était d'accord avec eux autres. Nos deux enfants ne suivaient pas le Seigneur. En 2000, on est arrivé à Nouvelle-Vie parce que vos messages à la radio me touchaient tellement. Après 6 mois de paradis sur terre à Nouvelle-Vie, ça c'est lui qui dit ça, après 6 mois de paradis sur terre à Nouvelle-Vie, on était émerveillés par tout ce que Dieu faisait pour les pauvres et pour les gens de l'Église. Mais un beau dimanche, le choc, vous avez prêché 2 dimanches sur la dîme. J'étais frustré, la lune de miel était finie. J'étais frustré, mais ma femme m'a dit, il faut qu'on fasse confiance à Dieu. On a des comptes, des dettes, on travaille tous les deux, mais on n'arrive jamais à s'en sortir. Ça nous prend un miracle, ça nous prend l'aide de Dieu. Pasteur Claude, c'est lui qui écrit, « C'est rare, mais j'ai écouté ma femme. » Toutes les femmes, je vous donne la permission de donner un coup de coude bien placé en ce moment, c'est stratégique. On a commencé en mars 2001. La différence, c'est qu'on n'a pas arrêté quand les temps durs sont venus. On a continué cette fois. Voici ce que Dieu a fait pour nous, on l'a écrit, et personne ne pourra jamais me faire croire que ce n'est pas le résultat de notre obéissance à Dieu. On a vécu plus de miracles en 4 ans que dans les 15 années avant, et nous, on sait que c'est Dieu qui a répondu à nos prières. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai eu 2 promotions à mon travail après 11 ans au même poste, avec une augmentation annuelle de 30 000 $ et un compte de dépenses. Mon épouse a reçu une proposition d'être copropriétaire du salon de coiffure où elle travaillait comme coiffeuse depuis 6 ans au même salaire, et en 2 ans, elle fait exactement le double du salaire d'avant. En plus, elle a une journée de congé par semaine de plus qu'avant, elle travaille 4 jours. Que ceux qui sont en faveur de la semaine de 4 jours disent amen. Un an, presque jour pour jour après qu'on a débuté des dîmes et des offrandes, mon père a décidé de nous donner un pré-héritage pour qu'on profite de son vivant. Il nous a donné son chalet familial dans les cantons de l'Est qui vaut 150 000 $. Lui, il dit, comme vous dites, Pasteur Claude, il y en a qui appellent ça des coïncidences, mais plus j'obéis à Dieu, plus il y a des coïncidences. Ce qui m'avait touché le plus dans votre message, c'est que la bénédiction de ceux qui ne lâchent pas dans les dîmes et les offrandes ne sera pas seulement matérielle, mais spirituelle, ce qui est le plus important. 6 mois après qu'on a commencé à donner, Dieu a réalisé un de mes rêves. J'ai toujours voulu m'impliquer comme placeur et dans la sécurité dans mon église. Les gens trouvent ça niaiseux, mais moi, j'aime accueillir les gens. J'aime ça les aider, j'aime les placer, j'aime les informer. Mais avant, j'étais tout le temps en conflit dans les églises où j'étais et je ne pouvais pas m'impliquer. Un dimanche matin où vous avez prêché sur l'implication, un homme de l'église m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, « Il me semble que tu ferais un bon gars de sécurité, on a besoin de toi. » J'ai commencé pendant les paniers de Noël et je pleurais de joie en le faisant. Je le fais maintenant fidèlement, c'est mon ministère et je ne le lâcherai pas. Le plus beau miracle, c'est qu'en 2 ans, après notre décision d'être fidèle à Dieu, nos 2 enfants sont revenus à Dieu. Ils vont à la jeunesse et ils aiment ça au bout. Vendredi soir, il y a 3 semaines, j'avais mon fils, ma fille et 3 de leurs amis de l'école que mes enfants avaient invités pour entendre Anthony Calvillo, le joueur de football chrétien des Alouettes. Les 3 amis ont accepté le Seigneur. Je suis un homme comblé. Ma famille est bénie. Je ne veux même pas imaginer où je serais si je n'avais pas obéi à Dieu. Vous le dites souvent, mais dites-le encore et donnez-moi un exemple. Ça vaut la peine de ne pas lâcher quand on commence quelque chose avec Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen et appuyer l'engagement? Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Je veux vous rappeler le pourquoi de cet engagement-là. Je veux vous rappeler continuellement pourquoi ce qui semble parfois tellement terre-à-terre et matériel, faire un chèque pour soutenir, être présent, être fidèle, être là, continuer pendant les mois estivales. La raison suprême de tout ça. Néhémie avait une tâche à appeler des gens, une tâche très matérielle. Il y avait des murs à reconstruire, il y avait des bâtiments, des portes, des dons, des offrandes. Mais c'était dans un but ultimement et entièrement spirituel. Ne soyez jamais de ceux qui, ne connaissant pas vraiment le royaume de Dieu, considèrent qu'il y a le spirituel puis il y a le côté matériel de l'autre côté. Pas du tout. Dieu dit non, c'est profondément spirituel. Alors que tous ces appels-là très terre-à-terre sont dans le livre de Néhémie, souvenez-vous de la raison suprême pour laquelle tout ça a été fait. Le texte nous dit dans Néhémie 2 qu'après que des murs physiques ont été bâtis, après qu'il y a une restructuration, c'était dans un but spirituel. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi. Néhémie 8, 2, 4 et 6. Le dernier verset ce matin. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Et Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Pas les choses, 2500 ans plus tard, n'ont pas beaucoup changé. On est ici devant vous aujourd'hui. Et Esdras a ouvert le livre à la vue de tout le peuple. Et lorsqu'il l'a ouvert, tout le peuple se leva. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains en disant « Amen ». Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Tout cela était dans un seul but, que des hommes et des femmes, tout ce soutien, toute cette générosité, que des hommes et des femmes de tous les âges puissent découvrir le message de Dieu pour eux, et qu'ils puissent se prosterner une personne à la fois devant le Seigneur. Parce que vous êtes engagés. Nous avons des témoignages jour après jour, semaine après semaine. La semaine dernière, il y a eu un baptême jeunesse. Ce soir, il y a un baptême des dizaines de personnes qui expriment et témoignent leur vie transformée. Pendant que Dan va commencer à jouer doucement, je voudrais juste vous lire quelques témoignages qui sont le fruit, que vous juste pour vous rappeler s'il est possible de l'avoir oublié. Voilà pourquoi je vais être fidèle pendant l'été 2005 dans mes engagements. Joseph, qui a 19 ans, nous écrit, a passé par les eaux du baptême la semaine dernière, puis il a dit, « J'ai grandi dans un contexte douloureux qui a produit en moi l'incompréhension. Plusieurs événements m'ont poussé à chercher Dieu. J'ai demandé qu'il me pardonne de toutes mes fautes. Je l'ai supplié pour une deuxième chance. J'étais dans un grand doute. Peu de temps après, j'ai rencontré un chrétien sur le Roc à Montréal. Sur le Roc est un centre pour aide aux jeunes de la rue à Montréal que nous soutenons, que vous soutenez. Comprenez-vous que pendant l'été 2005, ce n'est pas une diminution de jeunes qui sont dans la rue de Montréal, c'est une augmentation qui bénéficie du soutien. Et lui, ce jeune homme-là, s'est retrouvé là. Il a rencontré un jeune homme chrétien de l'Église qui l'a invité à un groupe GI, qui est un groupe pour jeunes. J'ai demandé au groupe qu'il prie parce que je débordais de haine, de colère. Mais après que les gens aient prié, j'ai senti une paix, une libération, une sincérité. Maintenant, je viens à l'Église. J'ai obtenu de Jésus une sécurité pour m'affermir. Je suis libre de la crainte des hommes et du jugement. Avant, j'avais peur de la mort. Maintenant, j'ai une paix et une assurance que je vais au ciel. Je me fais baptiser parce que je veux démontrer mon amour et mon respect envers Dieu. Votre engagement de fidélité libère des âmes qui ont souffert dans leur passé. Lorsque Lani écrit ce témoignage alors qu'elle a été baptisée la semaine dernière, elle représente des dizaines de jeunes, des centaines de jeunes qui sont dans ce lieu. Elle écrit « Mon père souffrait d'alcoolisme, ma mère de dépression. J'ai souffert d'abus très jeune. À l'âge de 14 ans, je suis parti avec mon copain. Pendant 3 ans, nous avons vécu dans la drogue et la boisson. Ensuite, j'ai été 3 ans avec un autre copain jusqu'à l'âge de 19 ans. De 14 à 19, j'avais une dépendance affective face aux hommes. La peur me retenait captive. En 2004, j'ai fait face à des démarches judiciaires qui m'ont amené à chercher la face de Dieu. Le 24 juin 2004, je me suis agenouillé et j'ai crié vers Dieu. Mon cœur est révolté lorsque je vois partout à travers le Québec les églises évangéliques qui sont presque fermées pendant l'été. Tout le monde s'en va en vacances. Je suis touché lorsque j'entends le témoignage de cette jeune fille-là. C'était la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. C'était un long week-end, beaucoup de chrétiens partis, des gens qui sont partis. L'église est presque fermée. Combien comprennent que pendant l'été, il y a encore des gens qui souffrent, qui ont besoin de rencontrer Dieu? Et je veux me tenir devant vous et vous dire qu'à chaque jour de la semaine, pendant toute la période été 2005, on est là et on s'attend à voir Dieu faire des miracles dans la vie des jeunes. On a besoin de vous pour le faire. « 24 juin 2004, je me suis agenouillé, j'ai crié vers Dieu, j'ai pleuré afin qu'il me pardonne ma faiblesse, qu'il prenne le contrôle de ma vie. Jeune fille qui avait été tellement attaquée de tous les côtés. Je l'ai placée avant moi-même et avant toutes les choses dans ma vie, je dois dire qu'il m'a fait, elle parle, elle est éloquente dans la façon dont elle écrit. Je dois dire qu'il m'a fait le don de la joie et de paix dans mon cœur. Avec toute sa douceur, il transforme mon cœur et celui de mon entourage. Les épreuves aussi ont pris place afin de me fortifier, mais avec sa parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Si vous allez à Jessica Tremblay, qui a 17 ans. Je suis né dans une famille normale, mais non chrétienne. J'ai eu une enfance heureuse, malgré le fait que les jeunes de mon école me lançaient des insultes. Cela a duré tout mon primaire et s'est intensifié durant mon secondaire. Dans les corridors, les jeunes me poussaient et me frappaient. Pendant l'hiver 2005, j'ai commencé à fréquenter la maison des jeunes GAP, un autre ministère que nous avons soutenu, ici à Longueuil, pour les jeunes. Chaque semaine, je parlais avec une intervenante chrétienne. Je me suis rapproché d'elle de plus en plus. Par la suite, je m'interrogeais sur Dieu et lui posais des questions. Puis elle m'a parlé de nouvelle vie. J'ai commencé à venir à chaque semaine depuis le 1er avril. J'ai donné ma vie à Dieu 2 semaines plus tard. Le Seigneur m'a donné des personnes formidables, dont mes grandes sœurs et mes meilleures amies dans l'Église. Mes amis à l'école ne me reconnaissent plus. Je suis de plus en plus joyeuse et l'Église est l'endroit où je me sens le mieux. Dimanche passé, il y avait une chorale d'enfants, une chorale de jeunes qui était ici, avec des chorégraphies, un jeune homme qui était là, qui danse magnifiquement, et qui est un leader dans la jeunesse maintenant. Ces jeunes apparaissent sur l'estrade, et vous les voyez, puis on vous avait donné une ovation debout devant la chorale qui a chanté, qui était si belle. On a besoin de savoir l'histoire de certains de ces jeunes-là. Sois garde, Nicolas, a été baptisé récemment. C'est un leader dans la jeunesse, les jeunes l'aiment, c'est un jeune homme extraordinaire. Je suis né dans une famille chrétienne. Dans ma jeune enfance, mes tantes me parlaient de Dieu. Je me suis converti pendant le baptême de mon oncle en 95 à Nouvelle-Vie. Je priais tous les jours et je lisais la Bible, mais mon feu diminua pour Dieu lors du décès de ma mère. J'ai cessé de prier, de lire ma Bible. Je savais que Dieu existait et qu'il attendait que je me tanne de la vie que je vivais. Mais en grandissant, j'étais dans la débauche jusqu'au jour où je vis le monde de mon entourage qui avait leur vie transformée et même des rétrogrades qui revenaient à Dieu. Alors, j'ai donné complètement ma vie à Dieu. Parce que vous soutenez, il y a tout un ministère jeunesse qui tend une main continuellement à des jeunes hommes comme lui qui vivaient des épreuves terribles. Et au lieu que Swag soit en ce moment dans un club à quelque part avec les talents qu'il a en train de couler, il est ici en train d'inspirer. C'était tellement beau dimanche dernier de le voir, ce grand homme-là, avec un petit jeune homme qui était avec lui. Et il y avait toute une pensée, alors que les deux faisaient la même chorégraphie ensemble, toute une pensée que ce jeune homme est en train de devenir un modèle dans notre propre église pour une jeune génération de garçons et filles. Il dit, je me fais baptiser par obéissance à sa parole et je veux être parmi the God family. C'est pas seulement pour sortir des jeunes de leurs difficultés, c'est aussi afin de les protéger. Souvent, on pense que les témoignages les plus extraordinaires, c'est j'étais dans la dope, il y a aussi un témoignage magnifique qui est un jeune homme que parce qu'il y a une église qui donne et qui pourvoit toutes sortes de ministères dans l'église, il y a des garçons et des filles qui vivent. Peut-être le plus grand de tous les témoignages, c'est que j'ai pas eu à tomber dans tout ça. J'ai été gardé, j'ai été protégé, je marche et j'ai été épargné d'être déchiré, d'être rebâti. Et Myriam écrit, elle a 13 ans, j'ai toujours cru en Dieu. C'est moi qui, très jeune, ai amené mes parents à l'église. Lors d'une retraite en 2002, pendant la prédication, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai ressenti que je pouvais lui faire confiance pour ma vie complètement. Dieu m'a conduit sur le bon chemin. Il m'a aidé à faire de bons choix. Il m'a aussi aidé à choisir de bonnes fréquentations et à surmonter plusieurs problèmes. Je me fais baptiser pour démontrer l'engagement que je prends avec Dieu et démontrer aux gens que ma vie appartient au Seigneur Jésus. De 13 à 67 ans, Guy, qui a 67 ans, nous dit, j'ai vécu une vie sans but. Des problèmes d'alcool, tu te fais baptiser ce soir. Des tentatives de suicide, un sentiment de culpabilité. Vivre ou mourir, c'était sans intérêt pour moi. Mon fils Rémi est chrétien depuis plusieurs années. Il me parlait périodiquement de la Bible. En mars 2005, je suis allé à l'église. J'ai grandement apprécié et découvert graduellement le Seigneur que j'ai accepté avec joie et amour. Depuis, j'ai arrêté de consommer. J'étais alcoolique depuis 25 ans. Dieu m'a aidé dans la foi. Je veux me faire baptiser pour marcher main dans la main avec Jésus. Le dernier de l'avant-midi, famille entière qui sont restaurées par votre engagement. Richard qui dit, j'ai une enfance heureuse, des parents présents. J'étais servant de messe dès mon jeune âge. Mais à 17 ans, j'ai été attiré vers la drogue, la boisson, la violence. Après quelques années, j'ai demandé au Seigneur de me pardonner. Et comme pour le peuple d'Israël, il l'a fait. Je me suis marié, j'ai eu deux enfants, puis je me suis remis à la drogue et à la boisson. Deux fois encore, j'ai succombé. Une amie m'avait donné le CD d'une prédication. Et en l'écoutant pour la 10e fois dans mon auto, je me suis retrouvé dans le stationnement de l'église Nouvelle Vie et j'ai pu rencontrer un pasteur immédiatement. Depuis, j'ai décidé de consacrer ma vie au Seigneur. Dieu a ouvert les yeux de mon cœur, je suis plus serein. J'ai prié fort que mes deux fils arrêtent la drogue et un mois plus tard, ils ont arrêté de consommer tous les deux. Voilà un signe de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Néhémie a dit... Engagez-vous, ne relâchez pas juste un instant, ne relâchez pas vos engagements, mais n'oubliez jamais que le but ultime, c'est des hommes et des femmes, un à la fois, qui viennent et qui découvrent les plans magnifiques que Dieu a pour eux. Et ça, je pense qu'on peut l'applaudir de toutes nos forces, de tous nos cœurs, alors qu'on arrive à la fin. Je vais faire quelque chose ce matin. Nous allons maintenant recevoir nos offrandes, les enveloppes dans chacun de vos bulletins. J'aimerais vous inviter à prendre vos enveloppes. Nous allons regarder une vidéo en terminant. On va faire quelque chose de symbolique pendant un instant. Simplement, ouvrez vos cœurs et dire, Seigneur, je veux maintenir mes engagements. Je veux être fidèle. Et pendant que vous allez donner ce matin, pendant qu'on va recevoir les offrandes de ce matin, pendant que vous allez mettre les enveloppes, je veux que vous pensiez à cet été 2005 et au mois à venir. Et qu'un frais, fraîche consécration puisse monter dans vos cœurs de dire, je vais m'engager. Je n'abandonnerai pas la maison de Dieu. Ce que j'ai vu, je veux le voir se multiplier. Pas seulement pour les gens qui viennent ici donner leur vie au Seigneur à l'Église, mais pour toute la communauté. Pour les 8000 personnes par mois qui reçoivent de l'aide d'Action Nouvelle Vie. On va regarder, alors que vous allez donner vos offrandes ce matin, une vidéo qu'on a présentée récemment, un souper pour Action Nouvelle Vie. C'est Claude Mayotte, animateur de télévision, qui anime la vidéo. C'est quelqu'un qui soutient Action Nouvelle Vie depuis longtemps. Et l'Église soutient des grandes sommes à chaque année Action Nouvelle Vie à travers votre générosité. Et pendant l'été 2005, nous avons besoin de vous et l'automne 2005 pour continuer ensemble. Mais alors que vous voyez comme il y a 2440 à 2450 ans. Alors, comme vous voyez, comme au moment de Néhémie, ils ont donné, et tout un peuple qui s'est, une personne à fois, tournée vers Dieu, que Néhémie leur a rappelé le fruit de leur générosité. Regardez au fruit de votre générosité ce matin pendant que nous recevons ces offrandes. Et à la fin, on va terminer avec un moment de prière ensemble dans cette clé d'engagement de la génération Néhémie. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes fidèles, pas seulement dans les dimensions financières de nos vies, dans la dimension de notre fidélité envers l'œuvre de la foi. Avec mes talents, avec mes dons, avec mon cœur, avec mon implication, avec tout ce que je peux faire pour aider l'œuvre de Dieu. Je te demande de m'aider, Seigneur, à être un homme, à être une femme, à être un jeune qui va s'engager fidèlement. Si je me suis relâché, ce matin je reviens. Si j'étais de ceux qui étaient simplement spectateurs ou observateurs, ce matin je fais un pas nouveau, un pas de générosité, un pas d'engagement. Et Seigneur, alors que je vois le fruit de tout ce qui a pris place, je te demande ce matin de me bénir, je te demande ce matin de me fortifier dans les engagements que je prends devant toi. Dans le nom de Jésus, je veux faire partie de la génération Néhémie. Toute l'Église dit Amen. Regardez le fruit de votre générosité alors que vous donnez ce matin. Pour Action Nouvelle Vie.
Le groupe Action Nouvelle Vie a un travail colossal à faire. Pourquoi? Parce que les demandes sont là, mais les demandes sont toujours de plus en plus nombreuses. Vous savez qu'à chaque semaine, à chaque mois, on donne des paniers, on aide les gens et il faut naturellement remplir cette banque alimentaire. Et en particulier à Noël, je pense que c'est plus que 1500 paniers, des familles de 2, 3, 4, 7 et 8 enfants qu'on essaie de nourrir pour qu'ils passent une belle période des fêtes. Mais c'est pas tout. Il y a également la boutique. La boutique aide. La boutique aide, c'est quoi? C'est bien simple. Vous avez besoin de vêtements, que ce soit des vêtements neufs, des vêtements usagés. Bien, vous venez là. Et le prix est complètement ridicule. Alors, on a besoin que vous nous donniez des vêtements également. Le bon départ, ça vous dit quelque chose? Vous avez un jeune enfant qui arrive dans le monde, et mon Dieu, non seulement ça coûte cher, c'est évident, mais est-ce qu'on a les moyens de peut-être maximiser les chances de développement mental et physique? Quand on n'a pas un sou en bout de la semaine, pas nécessairement. Bien, on essaie d'aider justement les familles qui ont des nouveaux enfants. Mais également le retour à l'école. Ça aussi, je le sais, vous en avez des enfants, vous savez comment ça coûte cher, que ce soit pour les souliers, que ce soit pour les fournitures scolaires. Bien, pensez-y. Non seulement on va aider à avoir de meilleurs résultats, non seulement on va essayer d'éviter le décrochage, mais on va également permettre à ces jeunes de ne pas se sentir défavorisés quand ils arrivent à l'école avec pas de vêtements, quand ils arrivent à l'école qui n'ont pas mangé, si vous voulez, le matin, ou qui n'ont même pas des crayons puis des blocs de papier pour écrire. Alors, tout ça mis ensemble, bien, le jeune, il fait partie de tout le monde. Il y a des chances de réussir. C'est énorme, ça. Alors, je vous parle simplement de quelques actions du groupe Action Nouvelle Vie. Ils ont besoin de vous. Oui, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de bénévoles, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de toutes choses. Et quand vous allez faire ces dons-là, bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir meilleur et ça va peut-être vous permettre justement de passer une meilleure année. Vous savez, la période des fêtes est importante. Bien, toute l'année, on a besoin de vous. En leur nom, je vous dis déjà merci.
Bonjour, je suis Suzanne Fournier, directrice de relations publiques pour le groupe Action Nouvelle Vie. Comme vous le savez sans doute, notre mission est de venir en aide aux familles aux prises avec la pauvreté, avec une emphase toute particulière auprès des enfants. C'est 7500 personnes que nous aidons à tous les mois à travers nos différents programmes. Et chaque famille est unique, chaque cas est unique, chaque personne vit différentes épreuves. Le témoignage que je vais vous raconter est l'histoire d'un couple. Un couple qui, il y a quelques années, vivait une vie tout à fait normale. Luc travaillait dans le domaine de la construction et Nancy, elle, était enseignante. Ils venaient tout juste de s'acheter une nouvelle petite maison et tout allait bon train. Jusqu'au jour où Luc eut un accident assez grave, il s'est blessé l'épaule très gravement jusqu'au point d'avoir là une chirurgie. Nancy, elle, continue à travailler comme enseignante. Elle aimait beaucoup les enfants et elle avait un rêve. Ce rêve était de tomber enceinte et d'avoir un bébé à elle, ce qui lui fut accordé.
On avait beaucoup, beaucoup de projets comme tels. On regardait pour un se fiancer à Noël. C'est ce qui est arrivé en Noël 2003. 2003, ouais. On a appris que, que ma conjointe, ma chérie est enceinte. Alors, elle était très heureuse parce que c'était un de ses gros rêves, et puis moi aussi. Et alors, on était ensemble pendant la grande période de sa grossesse, quotidiennement. Moi, j'allais à mes traitements aussi, puis j'allais voir mes spécialistes et tout ça.
Donc, la grossesse allait très bien jusqu'au jour où, à 8 mois de grossesse, Nancy fut malheureusement diagnostiquée avec un cancer du sein. On devait donc la provoquer pour débuter les traitements le plus tôt possible.
En bref, l'accouchement a très, très, très bien été. On a eu un beau petit bébé de salive et 10 ans, et puis en très bonne santé, souriant tout de suite là, en partant, qui s'appelle Justin d'ailleurs. C'était agréable parce que j'avais déjà une fille de 16 ans. C'était le fun d'avoir un garçon, le couple, tu sais. Et puis au bout de 1 mois, on apprend que le cancer est vraiment centralisé au niveau du foie. On s'est accroché avec de l'espoir, avec une foi très énorme, mais que malheureusement, les circonstances ont fait, en tout cas, que ça a été différent en bout de ligne.
Tout y a passé. Les économies, le couple s'est même endetté dans le but d'avoir des traitements médicaux là, adéquats pour essayer de lui sauver la vie. Et ça, ça a duré là, quelques mois. Et malheureusement, 3 mois plus tard, Nancy est décédée. Ce qu'on a pu faire pour Luc et son bébé, c'est qu'on a pu lui donner de la nourriture, aider le bébé avec les couches, le lait, les peaux de bébé. On a pu être un soutien moral pour lui. Et vous savez, lorsque j'ai parlé à Luc et qu'il me racontait là, son témoignage, là où il y a eu plus de difficultés à parler, c'est quand il s'est mis à parler de Noël. Comment il a été touché de voir tout le monde travailler aussi fort et tout mettre l'énergie pour lui donner un panier de Noël à lui et son bébé.
C'était comme la première Noël sans Nancy, sans la présence de sa mère. Alors, elle m'avait invité, entre autres, d'aller à la nouvelle vie, puis qu'il y avait quelque chose de quand même assez spécial qui se passait. Puis je m'attendais pas que ça soit si spécial que ça. Mais quand je me suis présenté là avec mon fils, ça a été d'un accueil très, très ouvert, un grand bras ouvert. Puis, je trouvais ça bien. Puis, le processus aussi, l'organisation comme telle, c'était le fun, là, voir tous ces gens-là. Là, puis, entre autres aussi, par rapport à Justin, il y avait un petit cadeau qui attendait. Dans l'ensemble, je vous dirais que Nouvelle Vie m'a apporté, m'apporte encore et puis m'a apporté beaucoup de bien. Alors, tout ça pour dire que s'il n'aurait pas été là, je n'aurais pas été où est-ce que je suis là présentement. Alors, je vous remercie beaucoup, Nouvelle Vie. Je suis très, très touché de ça. Et vos services sont très appréciés de ma part.
C'est sûr qu'on n'a pas pu ramener Nancy à la vie. Mais ce qu'on a pu faire, par exemple, c'est être là lorsqu'ils en avaient le plus de besoin. Puis, je ne connais pas le futur de Luc. Je ne sais pas ce que le futur lui réserve. Mais une chose qui est sûre, c'est lorsqu'il va recommencer à travailler, il n'aura plus besoin de notre aide. Là. On va avoir vraiment été là en tant que tremplin pour lui vers autre chose, quelque chose de meilleur. Et c'est grâce à ce soutien qui est si précieux qu'on peut aider d'autres familles parce que les besoins sont énormes. Et on peut les aider une famille à la fois, une personne à la fois, avec un mot, un geste, pour que l'espoir renaisse.
On peut applaudir la génération Néhémie en action. Chaque semaine, se lever ensemble si vous voulez bien. Levons-nous ensemble, si vous voulez bien terminer avec un moment de prière. La chose que vous pouvez donner qui est le plus précieux, c'est vous-même. J'élève mes mains. La plus grande offrande, c'est l'offrande de vous-même. J'élève mes mains, j'élève ma voix. Je mets ma vie devant toi comme une offrande. Prenez un instant avant de vous mettre en mouvement. Simplement pour tendre vos cœurs vers Dieu. Certains vont dire, moi, je tends mes mains vers le Seigneur. Comme un enfant tend ses mains vers quelqu'un qu'il aime. Et une des grandes joies et bénédictions de cette série de messages, c'est qu'il y a des dizaines de personnes qui reviennent à leur appel. Des gens qui disent, c'est assez maintenant, faut que je me donne. Je vais chanter dans la chorale, je vais œuvrer avec les enfants. Je vais œuvrer pour les couples de l'Église. Moi et mon mari, on va œuvrer pour les couples de l'Église. Je vais œuvrer pour les hommes, pour les femmes. Je vais aller œuvrer comme bénévole à Action Nouvelle Vie. Je vais aller soutenir des personnes âgées. Je vais aller à Sainte-Justine faire des visites. Je vais aller dans les hôpitaux. Je vais faire quelque chose. Je vais répondre à l'appel de Dieu. Je m'en ai éloigné, mais je veux revenir entièrement à mon appel. Si c'est votre cœur ce matin, tendez vos cœurs. Tendez vos bras à Dieu. Si vous êtes ici pour les premières fois, je veux vous dire ce matin, Dieu est engagé envers toi. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ta vie. Et toi, peut-être, qui faisais ta vie sans penser à lui, ce matin, Dieu a déjà un engagement de prix envers toi. Il est grand, il est bon, il est fidèle. Et tu peux lui ouvrir ton cœur ce matin parce qu'il est déjà engagé envers toi. J'aimerais voir des centaines de vies se tourner vers Dieu. Des jeunes qui sont ici, qui ont vécu des épreuves dans leur vie, des jeunes chrétiens qui ont vécu des drames, des tragédies, une jeune fille chrétienne qui a vécu un deuil, mais qui est ici ce matin et que tu peux choisir de te rebeller, de t'éloigner, tu peux choisir de te refermer, de t'endurcir, ou tu peux choisir ce matin de dire, je lève mes mains, je lève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande, Seigneur. Est-ce qu'on peut s'offrir ensemble au Seigneur dans cette génération?
Je lève mes mains. Je lève ma voix,
je lève
ma voix, je mets ma vie,
je mets ma vie
devant toi comme une offrande.
Seigneur, sers-toi de moi,
sers-toi de moi.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.